Le jardin de mon père est une invitation à remettre les mains dans la terre. Passionné par la nature depuis son enfance, mon père en a fait son métier. À la retraite depuis 20 ans, il est à l'origine de nombreuses initiatives, événements, dans le Tarn et la ville de Gaillac qui font référence sur le jardinage au naturel. Alors aujourd'hui, il veut se faire plaisir en partageant sa vision, ses observations, son expérience du jardinage avec vous. Dans cette aventure père et fils, eh bien, c'est l'occasion de l'accompagner en mettant nos différentes compétences au service de la transmission intergénérationnelle. Alors sans attendre, on vous invite vraiment à poser vos outils de jardinage pour un instant et de vous installer dans un endroit confortable, sur une bonne chaise, sous un arbre, à l'ombre, pour écouter le podcast « Le jardin de mon père ».
Salut micro.
Salut micro. Bien, justement, en parlant de micro, on va aller dans le microcosmos des plantes. On va aller en profondeur. Dis-moi...
On va dans le milieu tout court. Hein.
On va dans le milieu. On va pas dans les profondeurs.
On va pas aller dans le cosmos. On n'est pas sûr de revenir.
Hein. Exactement. Puis le décalage horaire, etc. Enfin,
bref. Surtout que Elon Musk ne s'intéresse plus au cosmos, mais à Twitter. Donc,
oui, il vient de l'acheter.
Et, le pire, hein.
Et il a dit qu'il faisait ça pour l'humanité.
Voilà,
donc on
c'est
sent
ça.
Beaucoup mieux.
Je sais pas d'où il a sorti les 45 milliards, mais chapeau. Un bon poisson.
Mais bon, ça c'est une autre histoire.
Je sais pas de quoi.
Alors,
mais de quoi on parle là?
Bah là, on va parler des plantes.
D'accord.
Hein.
Okay.
Elon Musk, il est bien gentil, mais
voilà.
Bon. Hein.
Parle pas beaucoup des plantes, lui.
Non. Ou c'est une autre plante, mais je sais pas laquelle. Mais bon. Chacun son truc.
Alors,
les plantes auraient-ils des moyens de défense? Et puis, il paraît que les plantes, elles se parlent entre elles. Alors là, moi, j'ai essayé. Hein, je me suis assis au pied d'un arbre cet après-midi. J'ai essayé d'avoir une conversation avec. Puis, ça, j'ai posé des questions, mais je n'ai pas eu de réponse. Alors, est-ce que tu peux m'apporter des réponses, toi, justement?
Oui. Alors, effectivement, je peux t'apporter quelques réponses. Quand elles se parleraient aussi... Oui, mais ça n'a rien à voir avec les conversations que nous, on peut avoir. C'est des conversations chimiques, si on peut appeler ça une conversation. Ce sont des échanges chimiques.
D'accord.
Hein? Mais ça, on peut toujours essayer d'enregistrer. On entendra peut-être quelques bruits d'air dans les canalisations, mais c'est pas rien à voir avec ce que notre langage à nous.
Oui, mais par exemple, il paraît que dans le monde animal, là, ils ont entendu il y avait quelque chose sur les tortues dernièrement, et que c'est une question de fréquence aussi. Et qu'il y aurait justement de la communication,
bien sûr,
du son, mais que notre oreille
ne permet pas
de capter.
Bien sûr.
Une question de fréquence.
La différence, il y a une différence fondamentale avec les animaux. Alors que je te signale qu'au passage, on parlait de végétaux.
Oui.
Mais tu as changé de camp. Bon, passons. En ce qui concerne les animaux.
On parle du vivant, non ?
En ce qui concerne les... Je vous en prie, ne cherchez pas à avoir toujours raison, monsieur Huette.
Les chiens ne font pas des chats. Hein.
Oh, c'est facile, ça, c'est facile. Bon, pour revenir à nos moutons, c'est le cas de l'Enéa.
Ah.
Ben, effectivement, les animaux ont des moyens d'échanger que nous, on n'a pas. Et ils perçoivent des choses que nous, on ne perçoit pas ou on ne perçoit plus.
Hein. Oui, je pense que c'est
bon,
plus dans le plus.
Par exemple, on sait tous que les chiens, par exemple, ont un odorat qui est 200 fois... plus développé que le nôtre, je crois. Non,
je sais pas si c'est
200 ou 250, enfin, peu importe, mais excessivement plus développé que le nôtre. Hein, bon. Et puis, ils ont d'autres moyens de nous connaître ou de communiquer, c'est aussi en observant nos mimiques. Bon, c'est pas moi qui ai découvert, hein, c'est en lisant à gauche, à droite, des bouquins sur les animaux, soit par des végétaux, par des scientifiques, il y a tout un tas de choses comme ça. Ils ont d'autres moyens de... C'est la même chose pour les végétaux. Quoi. Mais sur les végétaux, c'est un petit peu plus chimique.
D'accord.
Hein? Bon.
Donc, c'est pas une question, est-ce qu'ils se parlent entre eux, est-ce qu'ils communiquent entre eux?
Ils échangent entre eux, et ils communiquent entre eux sous forme de demandes, entre guillemets, et d'échanges. C'est-à-dire que ça s'appelle la symbiose. Il y en a un qui va apporter à l'autre ce que le premier ne peut pas fournir ou ce que le premier fournit. Voilà. Mais dont il a besoin pour continuer d'exister.
D'accord.
Ça s'appelle la symbiose, tout simplement. Bon, le meilleur exemple, on le redira tout à l'heure, c'est la truffe et puis le chêne. Ça, on connaît. Mais on connaît surtout la truffe au niveau gastronomique.
Ouais.
Hein, mais beaucoup de gens ont entendu parler de la relation qu'il y a entre le chêne et la truffe. On sait très bien qu'on trouve des truffes au pied de certaines plantations, hein, des noisiers, des chênes, et très peu au pied d'autres plantes. Ça peut arriver, ça peut être accidentel, mais souvent... D'ailleurs, bon, tu as été aux champignons avec nous en forêt de Fontainebleau. En forêt de Fontainebleau, il y a différents boisements. Mm-hmm. Il y a des boisements de chênes, il y a des boisements de hêtres, il y a des boisements de charme, il y a des boisements de bouleaux. Hein, selon le sol. Le sol de la forêt de Fontainebleau, c'est un sol qui est très léger, très, très siliceux, hein, très perméable. Il y a une quantité de champignons incroyables en forêt de Fontainebleau. Mais si on va dans un bois de bouleaux, par exemple, on va trouver des bolets rudes. Hein, on ne va pas trouver de cèpes, comme les cèpes qu'on voit dans le commerce. Hein, cèpes de Bordeaux. On ne va pas en trouver. Accidentellement, ça peut se produire, mais dans un bois de bouleau qui est relativement important, on trouvera plutôt des bolets rudes au lieu de bolets de Bordeaux.
C'était aussi quand on allait chercher les trompettes de la mort. Voilà, c'était un environnement encore différent.
Encore différent, dans des espèces de tapis de lierre ou de choses comme ça, ou de bruyère. Hein,
avec des bois morts, etc.
Aussi, ouais. Etc. En fonction des plantes et des sols, il y a les sols représentent des habitats différents, en plus du climat et de la région et tout ça. Hein, et les plantes sont plus ou moins adaptées à ce sol, à ce climat, et avec des participations, la participation d'autres éléments végétaux, comme ceux qu'on va voir actuellement, hein, par exemple des champignons. Bon, on parlera de mycorhizes.
D'accord, et on parlera justement quels sont les apports du champignon pour l'arbre et vice-versa.
Alors là, on rentre dans une partie qui est excessivement spécialisé, que je n'ai pas les compétences pour en parler, sinon à recopier purement et simplement un article que j'aurais piqué à gauche à droite. Mm-hmm. Mais ça dépend aussi des végétaux. On n'est pas tous, ils n'ont pas tous besoin des mêmes éléments.
D'accord. Bon,
c'est un peu comme nous.
Hein. Mais est-ce que le champignon nourrit l'arbre et l'arbre se nourrit du champignon, ou c'est juste c'est la pas, communication
c'est
pas une nourriture, sur l'environnement?
C'est un échange.
D'accord.
C'est un échange. Telle plante va avoir manqué de telle chose, alors que le champignon qui la mycorhize le produit. Elle va le transmettre par leur mycélium, par les racines.
Okay.
Il y a une espèce de synergie, hein, il y a une espèce d'échange. Hein, le meilleur traduction du mot symbiose, c'est échange. Hein.
Ok. Bon, allons-y alors, raconte-nous un peu.
Je vous avais dit il y a quelque temps déjà que les plantes n'étaient pas aussi dépourvues de moyens de défense, qu'on ne le pensait. Hein, on a l'impression qu'une plante, c'est inerte et que ça n'a pas de moyens. Bon, on savait déjà que certains végétaux en Afrique, par exemple les acacias, hein, nom latin du mimosa, entre parenthèses, hein, acacia de albata, rien à voir. L'acacia qu'on a chez nous en France, c'est le faux acacia. C'est le robinia pseudo-acacia, hein, qui vient des États-Unis, 1650, importé par M. de Robin. Je ferme la parenthèse.
Tu veux dire que le mimosa, les fleurs que j'adore...
Non. Ah. Faudrait peut-être écouter ce que je dis.
Ah non, mais...
J'ai dit qu'il ne fallait pas confondre acacia avec l'acacia chez nous, qui est le robinier faux acacia.
Robinier.
Robinier faux acacia avec les grappes blanches, hein, qui est un arbre qui a été importé d'Amérique du Nord par M. de Robin, d'où le mot robinier, vers 1650.
Hein. Très bien. Bon.
Et qui a envahi, c'est une plante invasive. Hein.
D'accord.
Il y en a partout. Il y en aura d'autres qui vont les remplacer d'ailleurs. Enfin, passons. Donc, je reviens. Certains végétaux en Afrique, donc les acacias par exemple, émettaient des signaux chimiques dissuasifs lors d'attaques de consommateurs, les girafes par exemple. Ces signaux, portés par le vent, prévenaient les acacias environnants qui se mettaient à émettre les mêmes signaux chimiques pour dissuader les consommateurs de passage et de brouter leur feuillage. Mais à une condition importante, que ceux qui, mais pas ceux qui étaient dans le vent. Uniquement ceux qui étaient dans le vent, c'est-à-dire que c'est le vent, l'acacia
émet. Le messager, c'est le vent.
Et c'est le vent qui transportait
le message.
Ce message dans le vent aux autres acacias. Mais ce qui est curieux, c'est que les acacias sentant de quelle manière cette odeur chimique, se mettait à l'émettre aussi. Ce qui fait que quand les girafes voulaient aller brouter le truc, elles l'avaient dans le baba parce que les autres, ils avaient été prévenus et ils commençaient à émettre eux aussi les mêmes signaux. dissuasif.
Ouais, j'avais déjà entendu parler de ça, c'est assez impressionnant. Ouais.
Ah oui, moi la première fois, j'en avais entendu parler, et à une occasion de Cinéfeuille à Gaillac, on avait fait venir un des chimistes de l'INRA, et qui nous avait expliqué beaucoup plus en détail, tu t'en doutes, hein, ce que je viens d'exprimer là, d'une façon assez simple, hein, qui explique malgré tout assez bien le phénomène, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Et c'est lui qui nous avait parlé du vent, il nous avait dit, attention, rectification, ce n'est pas systématique, encore faut-il que ce soit porté par le vent. Hein. La plante n'a pas la capacité d'appeler son copain d'à côté, de dire, dis donc, coucou, je transmets le message. Non, c'est pas ça. C'est le vent qui transporte l'odeur et la plante réceptionne l'odeur et elle réagit à l'odeur. Il ne faut pas aller trop loin et faire trop de comparaisons avec nos comportements à nous. Il ne faut pas faire d'anthropomorphisme. Mm-hmm. Hein. Il faut rester dans le secteur végétal.
D'accord.
Bon. Alors, donc, il y en a aussi, par exemple, la cohabitation plantes et parasites. Hein. Les plantes peuvent réagir aux attaques. Elles disposent de barrières mécaniques et chimiques avec plusieurs degrés de riposte. Hein. Les éliciteurs, par exemple, hein, ou stimulateurs de défense naturelle, par exemple, jouent ce rôle de mise en garde. Or, les extraits fermentés contiennent, entre autres, ces éliciteurs. Les extraits fermentés, en premier lieu, le purin d'ortie, le purin de consoude. Dans ces préparations, ce sont des préparations toutes simples. Hein. C'est pas, on dit purin d'ortie, mais c'est des macérations d'ortie, à froid par exemple, ou de consoude pour prendre les plus fréquentes. Il y a des SDN, il y a des éliciteurs dedans. C'est-à-dire, c'est des boosters, ça secoue le végétal pour qu'il réagisse. C'est quand même intéressant à avoir. Le purin d'ortie joue ce rôle-là. En plus d'être un petit peu fertilisant, il est aussi protecteur et booster un petit peu. Je crois que c'est le mot qui convient. Hein, booster, c'est réveiller des comportements.
Ok.
Et ça, c'est visible, c'est connu, même depuis, même si on ne connaissait pas le fin mot de l'histoire, c'était reconnu que le purin d'ortie dynamisait. On disait ça à l'époque. Hein.
Ok, alors c'est intéressant parce que quand j'étais aux Philippines, mais en Polynésie, ils nous disaient que pour chasser les moustiques, il fallait mettre du basilic sur les rebords de fenêtres.
C'est une plante répulsive. Mm. Ça, on en reparlera une autre fois parce qu'il y a différentes sortes de plantes. Il y a les plantes compagnes, il y a les plantes répulsives, il y a les associations de végétaux, il y a les plantes médicinales, il y a les plantes aromatiques, il y a tout un tas de
catégories.
Les unes peuvent avoir plusieurs fonctions.
Hein. Oui, oui.
Tu parles du basilic, il peut être répulsif pour les moustiques et il peut être aromatique pour nous.
Hein. Oui, oui. Bon.
Mm. Et comestible en même temps.
Oui, c'est comme ce que tu dis par rapport au clou de girofle.
Oui.
De mettre ça sur la table pour repousser
c'est un répulsif.
Les abeilles.
Voilà.
C'est mais nous, dans la cuisine, c'est pas mal.
Alors, bah, oui, c'est un parfum qui est quand même très exotique.
Hein. Oui.
Qui a fait la fortune de pas mal de zigotos. Mm. Alors, la macération d'ortie, hein, appelée à tort purin, hein, que c'était un éliciteur, qui est la plus connue, mais il y en a d'autres. Hein. Et elle jouera ce rôle tout à fait de préparer la plante en renforçant ses mécanismes dormants. Tu vois, c'est bien quelque chose qui stimule, qui réveille. Hein. Les extraits de plantes aussi sont des cocktails qui permettent de contrer les parasites, et de renforcer la plante qui aura l'année suivante plus de vigueur et plus de résistance. On en reparlera de ça.
D'accord. Hein, et ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement ou c'est
nous qui le fabriquons? Non, c'est les extraits de plantes qui favorisent ce truc-là.
D'accord.
Je ne sais pas, pour comparer, par exemple, comment je dirais, tu manques d'appétit, on va te donner une tisane qui va réveiller ton appétit. Bon, peut-être que les médecins vont... sursauter dans le truc, mais ce que je veux dire, c'est qu'on te fait boire quelque chose qui va réveiller les réflexes chez toi, dans ton organisme.
D'accord. Bon, mais malgré tout, les plantes finissent par disparaître. Il y a un cycle de vie un peu comme nous, quoi. Mais en été, par exemple, la chaleur, les orages, etc., on voit des fois On voit malheureusement, ou heureusement, ou ça paraît normal, c'est qu'il y a des traitements qui se font justement après la pluie ou avant la pluie pour éviter des maladies. Mmh. Alors toi, tu parles de cryptogamique ou quoi que ce soit.
Cryptogamique. Cryptogame, c'est champignon. Hein.
D'accord.
Les champignons cryptogames, c'est une forme de végétaux hein, qui a un mode de vie bien particulier.
Et donc, on utilise souvent des produits qui détruisent justement ou qui détruisent les possibilités de maladies, mais qui détruisent aussi autour. Donc c'est moi ce que j'aime bien appeler ça, c'est des produits qui sont efficaces mais qui sont pas efficients dans le sens où ils prennent pas en compte qu'est-ce qu'ils détruisent autour et quel est l'impact de ce qu'ils détruisent autour.
Ouais, la seule différence pour ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas le produit qui est en cause, c'est nous.
Oui, parce qu'on a fabriqué le produit
pour. Qui utilisons mal le produit en question.
Mmh.
Alors qu'on sait pertinemment quels sont les dangers. Dans nos médicaments, on connaît les effets secondaires. Dans les médicaments, on comprend. C'est la même chose avec ça.
Hein. Mmh.
Tout. C'est pareil. Mais on essaye toujours de faire des. Et puis on ne repense pas à ce qu'on a avant. Là, on a le cas des médicaments et des effets secondaires. C'est exactement la même chose avec les produits qu'on utilise dans le jardin. Mmh. C'est tout à fait la même chose. Hein.
Et donc, en détruisant un peu l'écosystème qui va autour, évidemment, on résout un problème d'un côté, mais on en crée d'autres.
On en crée d'autres, voilà, c'est tout.
Hein. Donc, comment on gère ça de manière peut-être plus naturelle, plus saine, justement, et peut-être en travaillant, en coopération avec les plantes?
Déjà, le premier point pour les jardiniers lambda, c'est déjà de bien s'informer et de ne pas acheter un produit les yeux fermés. Alors, tiens, ça zigouille, telle bestiole, je le prends sans regarder ce que ça zigouille, combien de temps ça zigouille, et si ça n'a pas, normalement, il doit y avoir marqué attention aux espèces sensibles ou un truc comme ça, respecter les dosages.
Mmh.
Ne serait-ce que déjà ça. Ne serait-ce que de respecter les dosages du produit. Bon, il faut dire aussi qu'il y a énormément de produits depuis la loi Labbé, hein, qui date de 2017. Ouais, 2017 pour les jardiniers comme nous, pour les espaces verts, et en 2019 pour les jardiniers comme nous, qui a éliminé tous les produits chimiques de synthèse du marché. On n'a plus le droit, nous, jardinier lambda, d'acheter des produits chimiques de synthèse pour servir dans les jardins. Ne reste que les agriculteurs qui ont encore ce droit. Pour combien de temps? Normalement, 2023, ça devait s'arrêter. Ça m'étonnerait. Mais bon, ça, c'est mauvaise, je suis une mauvaise langue. Hein? Mais il y a cette précaution. Quand on s'enfile des médicaments, quand tu vas chez le toubib et puis qu'il te propose, qu'il te dit, bon, vous avez ça, monsieur, vous avez l'autre, je vais vous donner ça. Mais attendez, avant de vous donner ça, est-ce que vous avez ceci, est-ce que vous avez cela, est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça? Bon, souvent, il ne demande pas parce qu'il connaît bien, mais quelquefois, il ne connaît pas bien et il pose un questionnaire.
Mmh.
Et il va éviter de te donner tel ou tel produit parce que tu as déjà ça. Bon, les plantes, c'est pareil. Hein?
Bon. Le problème, c'est qu'on n'est pas docteur.
Le problème, c'est qu'on n'est pas docteur, donc lire attentivement la notice et s'informer.
Mmh.
Il existe des bouquins, il existe Internet. Bon, alors c'est vrai que sur Internet, on trouve tout et le contraire, mais on peut arriver à faire la part des choses en relisant plusieurs sites et en s'apercevant qu'il y en a une très grande quantité qui va dire la même chose et puis qu'il y en aura un ou deux qui diront des conneries. Hein.
Mmh.
Bon, mais ça, c'est Internet. Hein. Bon. Donc, alors, notre objectif, hein, quand on utilise les produits, c'est pas de détruire tous les ravageurs, mais c'est de les tenir à distance raisonnable dans un premier temps, et qu'ils se déplacent vers d'autres plantes hôtes moins dommageables. Je pense à la végétation naturelle qui entoure les sites. Bon, on retrouve dans le potager des plantes de même famille dans l'espace vert autour du potager. On retrouve les mêmes.
Mmh.
Hein? Elles n'ont peut-être pas le même nom, mais c'est de la même famille. Si c'est de la même famille, elles ont les mêmes problèmes.
Alors moi, un truc qui est bizarre avec mon potager, justement, c'est que les sangliers y passent. Ils ravagent partout. Et ça fait 2 années consécutives qu'ils n'ont jamais ravagé mon potager.
Alors, il y a peut-être une odeur, laquelle, j'en sais rien. Hein, il y a peut-être une odeur particulière. Est-ce que c'est le figuier qui est là, mais ça m'étonnerait parce que je crois que les sangliers doivent être friands des figues qui tombent par terre.
Bah oui.
Hein, pourquoi, j'en sais rien. Il y a peut-être une plante dans la flore du coin qui dégage une... Est-ce que c'est le thym?
Bah là, il n'y en a pas, là. Et le thym est plutôt là-bas et ils vont plutôt là-bas.
Ils dévastent là-bas.
Ouais.
Ouais. Donc, ce n'est pas le thym. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Il y a deux plantes ici qui sont très odorantes, c'est le thym. Bon, bien sûr, il y a le romarin, puis il y a le curry, l'herbe à curry. Hein. Bon, ça, c'est vraiment... Alors, est-ce qu'il y a quelque chose... Ou est-ce que c'est la proximité de la vigne et des traitements? Enfin, c'est difficile à dire. Hein.
Ouais, je suis pas évident.
Ça peut être fin, il faudrait peut-être poser la question.
Mais je trouvais ça vraiment bizarre.
Est-ce que les vignerons ont constaté... bon, on voit bien que dans les vignes, ils y vont. Hein, ils vont se balader dans les vignes. Les...
Ouais. Alors, c'est quoi
J'avais pas fini de dire ce que je voulais dire. Hein. Oui, notre objectif, c'est pas de détruire tout, hein, c'est de tenir à distance raisonnable pour qu'ils se déplacent vers d'autres opportunités. Hein. Et maintenir, conserver un certain équilibre de la faune existante. Patience, ça se fait pas en un an. Parce que la faune existante, elle participe à la vie de l'ensemble. Mmh. Hein. Ça s'appelle, c'est la biodiversité, et on est interdépendant.
Voilà, alors c'est le mot que je cherchais, interdépendant.
On a évoqué tout à l'heure le clou de girofle et la guêpe. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est la guêpe, barre-toi, tu me gênes pour déjeuner.
Moi, je prends mon
casse-croûte. Puis tu me fous la trouille. Mais on n'a pas pour autant envie de la détruire, parce que la guêpe, c'est vachement utile. Mmh. C'est un animal utile, hein, à l'écart de la table.
Oui, et puis à l'écart de l'homme.
Voilà, et à l'écart de l'homme. Bon. Et puis, les guêpes n'attaquent pas l'homme. C'est parce qu'on va heurter une guêpe qu'elle va mal réagir. Mmh. Mais elle ne va pas délibérément venir sur ton bras pour te piquer.
Elle se défend.
Elle se défend. Hein, voilà. Donc, il faut arriver à... Ça, c'est quelque chose, c'est un petit peu comme les gens qui ont peur des chiens ou des chats. Hein. Ils ont du mal à l'expliquer. Et là, c'est la même chose. Les bestioles. Tu te souviens de cette pub à la télé? Je ne sais pas qui c'est, c'était Michel Leb ou je ne sais pas lequel, qui faisait les insectes qui faisaient... Et puis les autres, ils faisaient crac, 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 crac.
Je ne me souviens pas de ça, mais...
Tu vois Michel Leb, hein,
ouais, ouais, bien sûr,
le pitre
ouais,
que c'était. Et en venant de lui, c'était extraordinaire. Mais c'était très imagé, très évocateur, très vrai. Hein. Bon. Oui, alors vas-y, tu voulais poser une question.
Ben non, mais là, on arrive à un thème, je vais essayer de dire le mot, allélopathie, Kesako. Ouais.
Alors, c'est quoi ça? Tu vas comprendre après. Si ça ne va pas, je leur expliquerai. Chez nous, si nous avons des acacias, mais ce sont des robiniers ou faux acacias, nous n'avons pas encore de girafes. Mais nous avons des végétaux qui peuvent échanger entre eux.
Alors moi j'ai une girafe, hein, j'ai mon fils là, il est à plus d'1m90, bon c'est vrai qu'il n'a pas le coulon.
C'est pas une girafe, c'est une asperge.
Ah pardon, je me suis gouré.
Alors cette science de l'allélopathie est relativement nouvelle, elle date de 1930, elle a mis en lumière, tu vas avoir l'explication de l'allélopathie avec des termes, vocabulaire scientifique, hein. Elle a mis en lumière les échanges chimiques entre les plantes, qu'il soit inhibant, hein, néfaste, inhibe, qui réduit, qui éteint, qui empêche, hein, et néfaste, hein, égal néfaste, inhibant, hein, ou stimulant, c'est-à-dire positif. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des moyens qui vont être néfastes à la plante ou qui vont être au contraire positifs pour la plante en la stimulant. Ce sont ces échanges-là qui vont être. Hein, bon. Alors par exemple, hein, on a des parfums volatiles qui peuvent faire fuir des herbivores. Pardon, j'ai sauté des lignes. Hein. Ces échanges peuvent se faire par les racines qui exudent des composés dans le sol, le noyer, très fréquent ici, le pain d'Alep, il y en a partout, hein, bon, bien connu en Méditerranée, inhibant la germination et le développement de jeunes plantules. On peut voir ça dans les sous-bois ici.
C'est quoi les plantules?
Les plantules, c'est une jeune plante.
Ah d'accord, une jeune pousse.
Une graine qui a germé, qui fait une petite plante.
D'accord.
Ça peut être un petit arbre, ça peut être une herbacée, ça peut être un arbuste, ça peut être tout ce qu'on veut. On s'aperçoit que dans le maquis méditerranéen, souvent, le sol du maquis est pauvre en végétation. Mmh. Contrairement à nos forêts de chênes, de hêtres, aux choses comme ça, où il y a pas mal d'herbes, sauf au pied de l'arbre, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de racines. Mais d'une façon générale, les végétaux sont empêchés. Il y a une plante qu'on voit fréquemment dans le midi méditerranéen, c'est le phlomis, par exemple. Cette plante à feuilles grises, laineuses, avec des grosses feuilles jaunes. Mmh. Eh bien, ça fait des grosses touffes, moins comme la table ici, hein, pas très haute. Là-dessous, il ne pousse rien. Ou deux ou trois plantes plus qui sont indifférentes à l'odeur, hein, et qui vont s'installer, mais qui ne s'installeront pas en grande quantité. Elles ne vont pas tapisser le sol, elles ne vont pas couvrir
coloniser une zone.
Alors ça, ça peut être les racines qui exudent dans ce décomposé. Chez les feuilles, les toxines sont relâchées dans le sol lors de leur décomposition. Hein. Ouais, tu vois, j'ai mis phlomis, cyste, hein, empêchant la croissance d'autres plantes. C'est-à-dire que les toxines qui sont contenues dans les feuilles, quand les feuilles vont tomber sur le sol, elles vont être « lavées », entre guillemets, et elles vont se répandre dans le sol et elles empêcheront la germination d'éventuelles graines qui seraient tombées là. Alors, les parfums volatiles peuvent faire fuir les herbivores. Bon, la sauge, par exemple. On l'a vu tout à l'heure avec l'acacia, hein, qui faisait fuir les girafes. Mais bon, là, ici, nous, par exemple, on a des sauges dans un pré. Ça peut faire fuir des herbivores. Des plantes des moutons, des chèvres, des chevaux, des choses comme ça, qui ne vont pas aimer cette odeur qui est très, très forte. Si tu coupes une feuille de sauge des prés qu'on voit très souvent ici, hein, c'est une plante qui fait une lampe florale violette qui fait 30-40 cm, si tu la touches, tu t'aperçois qu'il y a une forte odeur.
Oui, tout à fait.
Odeur de sauge. Hein. D'ailleurs, on utilise d'autres sauges comme aromatiques dans la cuisine.
Oui, hein, tout à fait. Bon.
Alors, les mélanges allélochimiques, on revient là, sous l'effet des intempéries, ces toxines tombent et entrent dans le sol, fréquentes dans les garrigues. Hein, moi, j'ai vu ça, même pas dans ce département, dans le Tarn où j'étais avant, sous ce fameux phlomis et autour de ce fameux phlomis, il y avait peu de mauvaises herbes. Alors qu'à 2 mètres ou 3 mètres de là, il y avait spontanément des petites plantes qui se mettaient à germer. Mmh. C'est quand même intéressant d'utiliser ces genres de fonctions.
Hein. Ouais, ouais. Bon.
Et aussi les eucalyptus, les lauriers sauces, les myrtes, lentisques, lavande, santoline, armoise. Comme par hasard, je te ferai remarquer que toutes les plantes dont je viens de citer le nom sont des plantes qui sont du coin.
Oh putain.
Laurier sauce, myrte, lentisque, lavande, santoline. Des armoises aussi, ce sont des plantes vraiment qu'on trouve dans le maquis, dans la flore du maquis méditerranéen, hein, comme alors par hasard.
Je connais pas le nom des... Je ne sais pas à quoi ressemble une lentisque, une santoline, une armoise, mais si elle se trouve, je le sais sans le savoir.
Exactement. Bon, le laurier sauce, tu connais, pas besoin de l'eucalyptus, tu connais aussi. Bon, mais c'est pas une plante, c'est une plante importée, ça. La myrte, alors c'est une petite plante basse, feuillage persistant, avec des fleurs blanches très odorantes. Le lentisque, c'est un arbuste. Alors il y a plusieurs lentisques, il y a le térébinthe, il y a le pistacia lentiscus, hein, il y a le pistacia térébinthe, hein, qui sont des arbustes à feuilles composées et qui font des petits fruits rouges à l'extrémité.
Ah oui.
Et très résistants, très résistants à la sécheresse. Hein.
Moi, je me demande si j'en ai pas du côté de la maison.
La lavande, il doit y en avoir dans le chemin, là, il y en a. Bon. On les voit surtout en lisière, par exemple. On les voit mieux.
D'accord.
À l'intérieur. Ouais. Les lavandes, bien sûr, bon, ça tu connais. La santoline, c'est une plante qui a un feuillage très très fin, maigri, hein, très odorant.
Mm-hmm.
Les armoises sont des plantes qui peuvent être des plantes couvre-sol, à tige unique ou avec des touffes et un feuillage vert foncé et rouge aux extrémités, hein, avec un lait blanc dedans. Ce lait peut être agressif pour certaines personnes, hein, peut être irritant.
Ah oui.
Des aromatiques, le thym, l'hélichrysum dont je parlais tout à l'heure, le curry, voilà, l'herbe à curry, hein, par exemple.
Du thym.
Et puis d'autres couvre-sols. Voilà. Donc, et ça, on le dit d'ailleurs en aparté, par exemple, quelqu'un qui a un potager, s'il veut éloigner de ses plantes poireaux, de ses plantes carottes ou des plantes bien déterminées, tous les parasites qui sont attirés par ces plantes-là, il n'a qu'à planter des plantes aromatiques. Pourquoi ? Parce que les plantes aromatiques ont un pouvoir de dégager des arômes beaucoup plus élevés, beaucoup plus forts, beaucoup plus importants qu'une feuille de carotte. Une feuille de carotte, si tu la froisses, tu sens la carotte. Mais bon, il faut être un insecte pour vraiment venir percevoir, sentir cette odeur-là. Alors que tu marches dans le thym, si tu as le nez un petit peu sensible...
La menthe aussi.
Bah, la menthe, voilà.
La menthe sauvage.
Donc tu mets des plantes comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? Les bestioles qui vont arriver de la carotte. Bon, alors il y a des mouches qui vont se balader dans le coin. S'il n'y a que la carotte, et puis direct sur la carotte, parce qu'elle a l'odeur de la carotte qui a chatouillé les narines. Donc elle planche dessus. Elle fait son boulot, elle pond. Si, à l'extrémité du plant de carotte, où il y a une bordure, à un endroit, il y a une bordure de thym, ou une bordure de lavande, ou une bordure de menthe, comme tu disais, qu'est-ce qui se passe ? La bestiole qui arrive au-dessus, là. Elle se dit, merde, il y a de la carotte dans le coin ? Il y a de la carotte ? Il y a de la carotte ? Oh non, c'est pas de la carotte. Bon, elle va pas te dire c'est de la menthe ou c'est du thym, mais elle va trouver une odeur qui n'a rien à voir avec ce qu'elle a enregistré dans son code génétique. Hein ? Elle est programmée pour sentir l'odeur de la carotte, elle n'est pas programmée pour sentir l'odeur du thym. Hein ? Donc, elle va sentir l'odeur des plantes alentours va prendre le pas sur l'odeur de la carotte. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se barrer chez le voisin.
On va terminer un petit peu au sujet de l'allélopathie. Ouais. C'est un terme un peu rébarbatif, mais je pense que les explications ont été suffisamment claires.
Oui, tout à fait.
Bon. Et puis, il y a une chose qu'on pourrait peut-être dire, c'est que si vraiment il y a des gens qui ont un peu souci de compréhension, personne ne les empêche de nous poser une question.
Oui, exactement. Il y a une adresse email et voilà. Ils ont juste
pas,
à l'envoyer.
N'hésitez pas, quelquefois, les termes peuvent être un peu rébarbatifs. Même moi, de temps en temps, j'ai des difficultés à l'exprimer et à donner l'explication rationnelle du truc. Hein, parce que, comme j'ai dit à plusieurs reprises, je ne suis pas un scientifique.
Ah ouais.
Donc, il y a une chose intéressante pour ceux qui se baladent un peu. Je pense que vous connaissez ou vous avez entendu parler des pépinières Philippi au bord de l'étang de Thau, hein, à Metz. Cette pépinière a réalisé un massif expérimental en 2014. Les recherches sont parues dans le catalogue sous forme de liste de plantes allélopathiques. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut vous permettre d'acquérir ces végétaux. Si ce n'est pas chez Philippi, c'est chez un autre. Moi, je vous conseille d'acquérir le catalogue Philippi parce que c'est une bible.
D'accord.
Moi, je ne l'ai pas sous mon oreiller, mais presque. Parce qu'il y a plein de renseignements, parce qu'on ne sait jamais tout.
Ça ne doit pas être très confortable, non, à dormir dessus.
Bon, ici, il y a l'oreiller, pardon. Ouais. Parce qu'on ne sait jamais tout. Des plantes, il y en a encore, et il y en a encore un peu plus. Mm-hmm. Donc, on ne sait jamais tout. Et il est intéressant, souvent, de conforter soit l'idée qu'on a, soit de découvrir une autre vérité.
D'accord.
Voilà. Alors,
ensuite, il y a d'autres échanges entre les végétaux. Comment c'est quoi les autres, alors ?
Bah, les champignons, par exemple.
Oui.
Les organismes qui vivent dans le sol.
Pardon ? En omelette, les champignons ? Pas tous, hein ?
Même en salade aussi.
Ah, d'accord.
En salade, bon. Bon, complètement désarçonné. Là.
Ah oui, dès que je dis le mot champignon, toi,
je pars en forêt.
Hein, tu pars en forêt, ouais, tu penses à l'omelette.
Je rêve. Une omelette.
Ça, c'est des restes de Fontainebleau, ça.
Oui. Oh, il n'y a pas que Fontainebleau. Dans le Tarn, il y avait que j'avais. Là. Je tenais encore debout. Je ne me prenais pas les pieds dans les branches, ça allait. On faisait des belles omelettes. Bon. Alors, les organismes vivent dans le sol et sur le sol sont étroitement liés entre eux et aux plantes environnantes. Il y a des correspondances comme ça qui se font. Alors évidemment, c'est pas, il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a pas de timbre, mais il y a des échanges, il n'y a pas de téléphone, mais il y a des échanges d'une autre façon. On l'a vu, hein, par des produits, par des téléphones. Bon. Alors, on va parler là des champignons, on va parler des mycorhizes. Ce sont des associations symbiotiques. Alors, quésaco-symbiotique. Alors, en français... Plus clair, c'est une association de deux, voire plusieurs organismes différents qui leur permet de vivre avec des avantages pour chacun. Ces associations peuvent être contractées par les racines de certains végétaux, exogènes ou endogènes, c'est-à-dire en surface des racines ou en pénétrant les racines, hein, et certains champignons.
En pénétrant les racines, hein, voilà. Ça veut dire que... Voilà. L'information va dans les racines.
Voilà. C'est-à-dire que le mycélium du champignon va ou toucher la lampe ou rentrer dedans. Je ne veux pas parler sérieusement. Alors, qu'est-ce que ça fait ce truc-là ? Eh ben, ça favorise.
C'est un peu coquin quand même, ton truc.
Pardon ?
C'est un peu coquin ton truc.
Moi, je trouve pas ça coquin, je trouve ça extraordinaire.
Ah, d'accord. Mais c'est extraordinaire. Ça peut être extraordinaire aussi.
Mon coquin.
Hein ? Ça exactement.
Ah, d'accord. Bon, on va revenir à nos moutons. Non, à nos plantes, pardon. Alors, ça favorise l'absorption par les racines d'éléments minéraux du sol et améliore ainsi, la nutrition de la plupart des espèces végétales. Hein ? Ça se passe ici, dans le jardin, dans l'espace vert.
Bien sûr, mais il doit se passer un tas de trucs en dessous.
Et avec des avantages pour chacun. Seulement, on voit rien, on n'entend rien. Hein ? Le plus connu, on l'a dit au début du repas.
Ah, du repas, mais...
c'est la truffe et les racines du chêne.
Hein ? Ouais. Bon.
Donc, voilà ce que je pouvais dire. Moi, c'est un truc qui est passionnant. Alors, c'est compliqué. Hein. C'est sûr que ce n'est pas facile à expliquer. Ce n'est pas toujours facile à comprendre ou au moins à accepter comme tel. Mais la cohabitation des plantes parasites, l'allélopathie, les mycorhizes, tout ça, sont des choses qui sont cachées le plus souvent. C'est pour ça qu'on a certainement du mal. C'est pour ça qu'on a certainement du mal à l'accepter. Hein, parce qu'il faut d'abord s'y intéresser, ensuite il faut comprendre et éventuellement en chercher un peu plus de renseignements aussi, s'intéresser. Hein. Mais ça, je crois que c'est le problème du jardinier. Ça. Hein. Quand on est jardinier ou quand on veut être jardinier ou quand on veut devenir jardinier, je pense qu'il faut, cultiver l'observation, la curiosité, l'intérêt des choses. Il hein. Faut pas rester sur ce qu'il y a décrit sur le sachet de graines ou sur l'étiquette de la plante qu'on achète. Il faut être un petit peu plus curieux. Bon, moi, c'est ce que je...
Est-ce plus que moins je, un jardinier. Un jardinier, c'est un explorateur.
C'est un explorateur. Je me rends compte, je l'ai dit plusieurs reprises, hein, je vais le répéter. Bon, à l'âge que j'ai, je continue de découvrir des choses. Même ici. Même dans ce cadre dans lequel on patauge toute l'année, hein, qui nous est très familier. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas.
Mmh, oui, tout à fait. C'est pas l'aide de la découverte, la
exactement.
Terre.
Exactement. Déjà au niveau du végétal, incapable de dire le nom de toutes les plantes qu'il y a là-dedans, incapable de dire le nom des bestioles qu'il y a là-dedans. C'est
et pourtant, tu en connais pas mal.
Ben oui, mais pas toutes. Et puis, jamais je connaîtrai tout. Jamais. Et même dans ce que je connais, j'ai encore des lacunes.
Oui, je sais que tu as des lacunes. Oui.
Oui.
Oui. On ne va pas rentrer dans ce sujet non plus, c'est un peu glissant.
On n'est pas à Venise. Hein.
Non, on n'est pas à Venise.
Je sais pourquoi.
Oui, les lacunes.
D'accord, il n'y en a qu'une. Bon, passons.
Alors,
tu n'as plus de questions à poser ?
J'ai plus de questions à poser, mais par contre, moi, de temps en temps, j'aimais t'écouter, c'est super, mais des fois, j'aime bien bouquiner, lire et voir, etc., pour comprendre un peu plus en profondeur. Est-ce que tu as des conseils, justement, de lecture ?
Oui, mais ça, il faudrait que je prépare une petite liste. Ah bah, il y a déjà le truc de... Y a... Ah bah oui. Bah tiens, j'ai pas ça sur mon papier, moi. Ah bah si, je l'ai, mais tu m'as... Voilà. Tu m'as interrompu.
Non, mais je veux dire, le script a été écrit par toi.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis désolé, mais mon fils m'a interrompu dans... Et dès que je suis interrompu, je ne sais plus où je suis.
Ah oui, ouais. No comment.
Oui,
no
alors
comment.
J'aurais dû vous le dire avant de tourner la page, hein, bon, des produits fertilisants du commerce intègrent désormais des champignons mycorhiziens et des bactéries. Alors qu'avant, vous enlevez le produit tout, et puis débrouillez-vous. Tandis que maintenant, il est enrichi par ces solutions-là. Hein. Ça fait déjà quelques années que ça se fait. Hein. Alors, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, là, nous ne sommes pas des scientifiques, mais des jardiniers. Hein. Et on doit pouvoir mieux connaître la vie des plantes et pour mieux les apprécier, les cultiver, les entretenir. Je vous conseille un petit livre de Stéphane.
Ah, on y arrive alors au livre.
C'est inutile de remuer le couteau dans la plaie.
De remuer ?
Ça saigne.
Ça saigne.
Je vous conseille donc, pour la deuxième fois, un petit livre de Stefano Mancuso, M-A-N-C-U-S-O, et Alexandra Viola, L'intelligence des plantes, des arbres, pardon, en livre de poche, à lire absolument, et nous ne sommes pas au bout des découvertes.
Très bonne idée, ça. C'est vraiment une super suggestion. Moi, j'y avais pas pensé.
Je vous signale, monsieur Vett Junior, que j'ai horreur qu'on saute de ma tronche. Excusez-moi cette vulgarité, mesdames, messieurs.
Bon, bah écoute, voilà.
Bon, alors, je vous ai donné ce livre-là, mais il y en a beaucoup d'autres que vous découvrirez vous-même dans des bibliothèques spécialisées ou sur Internet, enfin, puisque Internet absorbe beaucoup de notre temps. On doit pouvoir trouver aussi sur Internet. Moi, j'ai plein de bouquins à la maison, mais qui datent un peu 56, 59, 60, jusqu'en 90. Donc, pas toujours facile de les retrouver. Et puis, il y a une évolution. Il y a des nouvelles expériences, des nouvelles recherches. L'INRA, entre autres, les CNRS et tout ça, continue de bosser. Hein. Mmh. On en apprend tous les jours. C'est ce que nous expliquait d'ailleurs le petit livre « L'intelligence des arbres hein, », par exemple. Bon. Donc, je vous conseille la curiosité. L'observation, j'ai un mot que j'avais oublié tout à l'heure, c'est pas le plus fort pour moi, la patience.
Ah oui, ça je reconnais,
bien,
oui.
J'aimerais bien récolter les fruits avant que l'arbre pousse.
Oui, ah, je reconnais que c'est pas une de tes grandes qualités. Tu me l'as pas non plus passée celle-là.
C'est raté. J'espère bon. Faire mieux la prochaine fois.
Et, ah bon ah, putain, 84 ans, tu veux en faire un deuxième.
Dans une seconde existence.
Ah bah, d'accord. Bah, écoute, okay. Pourquoi pas hein. Moi, j'étais pas prêt à avoir un frangin ou une sœur maintenant, mais bon, vieux motard que jamais.
Oui, exactement.
Allez, maman est au courant ?
Je ne lui ai pas encore fait de confidence.
Ah bon, bon bah, je te laisse gérer ça. Hein. Et puis, on va voir un peu comment ça se passe.
Si de ton côté, tu peux t'abstenir.
Voilà. Bon, bah super. Merci,
mesdames,
salut.
Mesdames et messieurs, au revoir, au plaisir.
Ciao.